Bienvenue dans notre podcast, Les Interviews Impactantes. Par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Dans cet épisode, nous sommes avec Karine Fège, directrice générale d'Apidae Tourisme.
Bonsoir, je suis Bertrand Viala, responsable stratégie et développement de la société Anéol et j'ai le plaisir ce soir d'être avec Karine Fège, directrice générale d'Apidae. Donc nous sommes à l'AG d'Apidae à Saint-Étienne. Bonsoir Karine.
Bonsoir Bertrand.
Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu quelle est la mission d'Apidae, comment elle a été créée et quel est le rôle en fait dans la gestion de la data pour le tourisme.
Alors, Apidae, c'est une vieille histoire. En fait, ça a plus de 15 ans. C'est la transformation d'un problème qui, initialement, était le coût de la production de la donnée, et plus exactement de l'information touristique. Aujourd'hui, on parle de data, mais on parle d'information touristique spécifiquement, c'est-à-dire tout ce qui permet à un territoire de faire la promotion de sa destination, de sa marque. L'information touristique, c'est aussi bien tout ce qui concerne la description du territoire, ses hébergements, ses activités, ses circuits, les bonnes choses à y manger, les événements. Il y a 15 ans, un constat a été fait. Produire la donnée, ça coûte cher. Par contre, ce qui lui donne sa valeur, c'est exploiter cette donnée, la diffuser. Un office du tourisme, il a besoin d'informer ses clients à l'accueil, d'informer son site web. Il a besoin d'utiliser des applications mobiles ou de faire des brochures. Donc il faut saisir une fois la donnée et l'exploiter N fois. Et c'est une économie. Et pendant qu'on renseigne le tourisme, on crée de la valeur. Quand on crée de la donnée, ça coûte cher et ça rapporte rien.
Alors c'est intéressant parce que Apidae a un modèle aussi de gouvernance un peu spécifique aussi qui est adapté à ce que tu veux dire. On parle de mutualisation des données touristiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Et bien, dans cette logique de faire des économies ensemble, nous avons mutualisé le coût de cette production de données et nous avons mis une gouvernance qui est associée. Et lorsque nous nous sommes transformés il y a simplement 2 ans, en 2020, pour créer une société coopérative, on a gardé ce fonctionnement de mettre en commun nos moyens. Une société coopérative, c'est quoi ? C'est un financement partagé des coûts de fonctionnement, du capital et aussi des résultats et une mise en commun des moyens.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu également l'évolution de la donnée, en fait, sur les dernières années ? Parce qu'on parle beaucoup d'éclatement de la donnée. Quand on parle du tourisme, il y a une multitypicité d'acteurs en fait, qui agissent sur ce domaine-là, qui génèrent de la donnée, qui en partagent, qui la diffusent. Les données sont rentrées par également des offices de tourisme, d'autres acteurs locaux. Et comment ça a évolué sur les 20 dernières années compte tenu en fait, de l'évolution des plateformes et du monde numérique ?
Alors il est vrai que c'est un vrai sujet, parce qu'il y a 15 ans, quand Apidae s'est lancé, très peu de gens étaient digitalisés, comme on dit. Les offices du tourisme étaient légitimes pour piloter au niveau d'un territoire la structuration de la donnée et les échanges entre les pros. Aujourd'hui, chaque pro, chaque hôtelier, chaque acteur touristique a sa plateforme qui permet de saisir la donnée, de la diffuser. Et donc, il devient de plus en plus difficile pour des destinations de renseigner correctement son client parce qu'il devient de plus en plus difficile d'accéder à cette donnée qui est partout dans toutes ces plateformes. Donc, l'enjeu d'Apidae est justement de permettre de remettre cette donnée au cœur du territoire. Alors, non seulement Apidae propose un service qui permet de gérer la donnée, mais de plus en plus, on fait des deals, et c'est ce qu'on appelle un écosystème, avec d'autres plateformes pour faire circuler la donnée d'une plateforme à une autre. Et ça permet derrière, donc, au territoire, de continuer à faire son job, de renseigner les clients, mais pour autant, le coût de production de la donnée aura évolué différemment puisque il a un accès à ces différentes plateformes.
L'enjeu, c'est vraiment la valorisation du territoire, donc également la mise en relation des futurs clients avec les différentes richesses de ces territoires-là. Dans le quotidien d'une collectivité territoriale qui en charge le tourisme, quelles sont les difficultés en termes de gestion de données auxquelles elles sont la plupart du temps confrontées d'après ton expérience ?
Alors moi, ce que je constate, c'est un petit peu une évolution de la société. La donnée touristique, pour avoir de la valeur, elle doit être profonde et elle doit permettre d'être utilisée pour renseigner dans différents contextes. On renseigne au comptoir une famille, qui a deux enfants et qui se pose la question de l'activité qu'il va faire cet après-midi. Mais on renseigne aussi le chef d'entreprise qui se pose la question de savoir où est-ce qu'il va faire un séminaire. Donc la donnée touristique, c'est très large. Donc avoir toute cette information, c'est complexe, ça a un coût, et c'est la finalité d'Apidae de favoriser ça. Après, effectivement, de plus en plus, les hôteliers vont se commercialiser tout seuls. Des plateformes comme Booking, comme Google My Business, donnent l'impression qu'il est très facile de toucher le client et de faire sa vie tout seul. Or, bien souvent, dans un territoire, ce qui fait venir le client, c'est surtout la destination et la valeur de la marque. Vous allez en vacances à Megève, à Chamonix, parce que c'est connu, un peu moins à Trifouiller et Trois Crevettes.
Je ne connais pas Trifouille et Trois
Crevettes. C'est une très belle destination, je vous garantis.
Je pense que voilà, Apidae doit avoir en fait beaucoup de valeur sur, localement pour faire développer la valeur de cette marque-là. J'en doute absolument pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution des usages. Alors, on parle des usages des collectivités territoriales qui évoluent parce que les usages des clients, des touristes, en fait, évoluent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'en 2022, un client typique recherche pour choisir sa destination et donner de la valeur à cette destination-là, en fait. Quel type de critères va-t-il mettre en œuvre pour pouvoir identifier son choix, soit destination touristique, soit professionnelle ?
Alors, ce qui se passe pour ce client, d'abord, c'est qu'il a une multitude de possibilités pour trouver l'info. Il va voir un grand nombre de sites, et bien souvent, il vient sur le site de l'Office du tourisme en fin de parcours. C'est-à-dire qu'il va y trouver l'information une fois qu'il a déjà pratiquement fait son choix de venir sur cette destination. Donc c'est là qu'il ne faut pas le rater. C'est-à-dire que pour le fidéliser, il faut qu'il soit content parce qu'il a trouvé toute cette information. Donc il a plein de moyens d'y venir. Donc il faut vraiment que cette information, elle circule. Et quand le client y vient localement, il va avoir une information précise et il va avoir ce qu'on appelle une expérience, c'est-à-dire la capacité à ce qu'on lui raconte la destination de façon différente, non pas numérique, mais avec peut-être une petite touche spéciale et adaptée. Parce que l'intérêt de Monsieur Dupont qui vient avec ses enfants, il n'a pas du tout les mêmes intérêts et il recherche la petite différence, ce qui va lui faire une expérience et un souvenir. Et là, l'Office du tourisme joue son rôle parce qu'il a l'ensemble de la connaissance du territoire très fine. Et un dernier élément, un sujet comme par exemple les événements. Quand vous regardez le site internet, à 10h du matin, vous voyez que la fête du village, c'est le soir, sur la fête du village. Simplement quand à 14h, il y a un orage qui est prévu, eh ben, la fête du village, elle ne se passe plus sur la place du village, elle va à la salle des fêtes. Et cette information qui change très très vite, il faut que le client il l'ait vite. Et ça, c'est localement qu'on peut l'avoir grâce à des systèmes d'information performants. Et ça, vous ne le trouvez pas dans Google.
Non, c'est effectivement. Alors en fait, si on regarde un peu les modes de diffusion de cette information performante et actualisée, hein, qui dépasse un petit peu ce que la plupart des usagers ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les réseaux sociaux habituels et également les moteurs de recherche que vous venez de citer, que tu viens de citer, comment en fait la donnée Apidae, à part les offices de tourisme, est-elle diffusée auprès des usagers en fait ? Quels sont les différents moyens par lesquels les usagers sont en contact avec cette donnée ?
Alors, les moyens traditionnels, site internet, réseaux sociaux, les offices du tourisme sont très actifs dans les réseaux sociaux.
Absolument. Oui.
Les pros sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, c'est les infos classiques. Ce sont les moyens les plus classiques. Et puis, il y a des moyens directs. De plus en plus, ce qui se développe, c'est vous réservez votre hébergement. Vous vous posez la question de savoir comment venir. Donc, vous allez avoir sur un site de transport une information sur la destination. Ça, c'est important. D'où l'important de lier nos données aussi avec les acteurs du transport, par exemple. Puisque quand vous réservez votre train, c'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'arrivée. Mais dans l'autre sens aussi, quand vous faites la promotion de votre destination, il est important de savoir comment on vient.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, tous ces mouvements-là, c'est intéressant parce qu'on va vers une autonomisation de plus importante de l'usager, en fait, qui n'est pas dépendant d'une ou l'autre plateforme, en fait, pour déterminer ses choix et pour, en fait, déterminer son parcours. Donc, c'est une individualisation un peu plus poussée que ce qui existe actuellement. Justement, ça m'amène à poser la question, on est dans l'individualisation, on est dans la granularisation de la donnée. Mais on a également maintenant, dans la tendance actuelle avec le changement climatique, eh bien, une interrogation légitime de la plupart des usagers sur la durabilité, la sobriété de leurs données en termes de consommation carbone, en termes de durabilité écologique. Est-ce qu'un outil comme HappyDB peut être également, dans la façon dont il permet de gérer cette donnée-là, contributeur à des réflexions, en tout cas des stratégies qui permettent de limiter le coût écologique de la donnée?
Alors, il y a le coût écologique de la donnée, mais il y a le coût écologique aussi de l'ensemble du séjour.
Oui.
Et ça, c'est un autre type de données. Ce n'est pas de la donnée touristique. C'est de la donnée associée à la donnée touristique. Par contre, il est clair que beaucoup de destinations se posent ce sujet. On a eu d'ailleurs un rendez-vous digital entre les différents sociétaires sur le sujet, sur le sujet de la RSE, sur quand on organise un événement, quel est le coût écologique de la venue des partenaires. Donc ça, c'est un sujet auquel on va s'attaquer, je pense. Parce qu'il y a une demande forte au niveau des territoires de pouvoir associer leurs données touristiques avec des données de ce type-là, qui leur permettent aussi de donner une meilleure image à leur destination. Une destination écologique friendly, sur laquelle vous avez des possibilités de faire du vélo, sur laquelle les navettes sont gratuites, sur laquelle la gestion de l'eau est suivie. Ça, c'est des informations complémentaires qu'il va falloir de plus en plus associer parce qu'il y a une demande forte. Les labels aussi. Dans la donnée touristique, on parle aussi de tout ce qui est dégustation, donc tout ce qui est bio, tout ce qui est culture et agriculture durable. Donc ça, de plus en plus, on commence à avoir des destinations qu'on a besoin. Donc évidemment, HappyDB permet de gérer cette information.
La question aussi qu'on peut se poser légitimement dans ce contexte-là, et c'est une question importante, je pense, c'est celle de la gestion de la donnée touristique au niveau européen. Aussi, comme tu le sais et qui a déjà été évoqué dans différents forums, il y a eu à Strasbourg au début du mois de mai un forum sur l'économie sociale et solidaire organisé par la présidence française de l'Union européenne qui a réuni différents acteurs, dont les acteurs du numérique également et du tourisme et également de la transition écologique. Comment ça se passe au niveau européen sur la gestion des données touristiques spécifiquement? Il y a des directives sur la donnée en général, mais sur le tourisme en particulier, comment HappyDB s'inscrit dans cette démarche?
Alors il est vrai qu'au niveau européen, alors je dirais plutôt au niveau français, puisque la semaine dernière encore il y avait un colloque en Espagne. Les Espagnols sont notamment pas mal intégrés dans la question de la gestion de la donnée touristique au niveau européen. Il y a les démarches européennes d'organiser la gestion de la donnée, une architecture de la donnée, comme on appelle ça, au niveau européen. HappyDB est intégré dans ces démarches avec des partenariats et notamment avec les données transport. Comme j'ai l'habitude de dire, les données touristiques donnent du sens aux données transport. Et de même que les données transport ont besoin du tourisme. Donc il est logique qu'on travaille ensemble. HappyDB est associé avec Air France, avec la SNCF, avec Aéroport de Marseille, Aéroport de Paris et même Amadeus, dans une démarche qui s'appelle EONAX, qui est la gestion de la donnée transport et tourisme au niveau français, qui s'inscrit dans les démarches au niveau européen. Et donc on a des échanges avec les autres espaces de données, les data space comme on les appelle, dans les autres pays. Nous suivons ça de façon très proche, parce que l'Europe se distingue et a une démarche absolument passionnante qui prend en compte la propriété de la donnée, le respect de la propriété de la donnée, bien au-delà du sujet simplement du RGPD, qui traite des données personnelles.
Totalement.
Mais de façon générale, le respect de la propriété de la donnée est absolument essentiel. Puis derrière, il y a un autre sujet aussi dans les sujets européens qu'on a un peu tendance à oublier, qui est le problème, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est une réalité, le sujet de l'économie de la donnée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'open data, qu'on parle beaucoup de données qu'on va échanger avec des usages, etc. Alors déjà, on fume beaucoup sur les usages, parce que la mise en relation des données entre elles, ça a un coût, d'où l'intérêt de la mutualiser, d'où l'intérêt de travailler ensemble, mais surtout, il faut pouvoir avoir un modèle économique. Et ce modèle économique, l'enjeu, c'est la vente de la donnée avec une rétribution de l'ensemble des acteurs de la filière. Et ça, c'est très différent du sujet de l'open data. L'open data, il y en a qui produisent, il y en a qui consomment. Et on ne partage pas la valeur. Alors, on a beau nous raconter que la valeur est partagée de façon indirecte parce que les GAFA ramènent de la valeur. Oui, bon, ça n'empêche que ceux qui ont produit la donnée, ils ont passé du temps et du coût. Tandis que si on arrive à monter des modèles de business où on croise les données ensemble, où on fait des grands data space ensemble, à partir d'usage, toujours de façon très pragmatique, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens, et où on pense en même temps comment allons-nous financer ces développements et comment allons-nous nous rémunérer les uns les autres, c'est complètement la démarche de Gaia-X et c'est complètement la démarche d'Eoana-X et c'est pour ça qu'on s'est associé aux acteurs du transport. Parce que l'économie de la donnée et c'est le futur de la donnée. Sans économie, ce n'est pas durable.
C'est vrai qu'on a entendu parler très très souvent, en fait, dans le cadre des collectivités territoriales, de ces questions d'open data qui ont une forme d'attractivité, il faut bien le dire, hein, parce qu'il y a une forme d'accessibilité, d'immédiateté. Sur les éléments que tu as cités, qui font totalement sens, comment est perçue cette nouvelle évolution dont tu nous as fait part sur la propriété de la donnée, sur la rétribution des créations de données? Est-ce que c'est un message qui est bien reçu, ou alors est-ce qu'il faut encore un peu de pédagogie ou de travail de conviction pour faire évoluer un petit peu l'acceptabilité d'une idée qui semble assez logique, mais qui n'est pas forcément partagée par tous, à l'heure où nous parlons, hein.
Eh bien, en fait, il y a plusieurs positions. Il y a ceux qui sont vraiment dans une logique de diffusion de la donnée gratuite. Ils partent du principe, beaucoup de collectivités territoriales partent du principe que la donnée est produite et qu'il faut la mettre à disposition du public, voire qu'on produit de la donnée pour la diffuser. Puis, on a d'autres qui commencent à se rendre compte que c'est bien tout ça, mais qu'au point de vue économique, ça a un coût, cette production, et qu'il faut d'une façon ou d'une autre pouvoir financer ce coût. Donc on a un petit peu toutes les positions. Et donc il n'y a pas d'unité là-dessus. C'est des discours et des gens qui s'empaillent en permanence. Et nous, au niveau d'Apidae, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle on va lancer cette brique de consentement qui va être en fait une brique qui va permettre de donner la liberté à chacun. Après tout, il y en a qui veulent diffuser leurs données à tout le monde, à la Terre entière, gratuitement. C'est leur stratégie. Pourquoi pas ? Mais d'autres ne sont pas dans cette logique. Donc à partir de là, nous, on met en place les outils qui vont permettre à chacun de choisir sa stratégie. Ce n'est pas à nous, avec notre grande intelligence du réseau Apidae, d'aller décider ce qui est bien ou mauvais pour les autres. Donc on met en place des briques technologiques qui permettent à chacun de mesurer sa stratégie. Gratuité, paiement, paiement d'une petite partie ou de l'ensemble. C'est des vraies stratégies locales et qu'il appartient à chacun de pouvoir décider en son âme et conscience et en fonction de ses propres stratégies aussi et de ses enjeux locaux.
Je pense que ce sera une très belle conclusion à notre entretien de ce jour. Effectivement, les thématiques de l'autonomisation des usages, de la liberté de choix, de la liberté également de propriété sur les données, sont effectivement les piliers de ce qu'on appelle le numérique durable, entre autres questions écologiques. C'est également une question de durabilité humaine aussi et sociale. Merci beaucoup Karine Fesch pour cet entretien.
Merci.
Et on se retrouve pour la GIE.
C'était les interviews impactantes par Anéole, votre expert en tactique digitale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.aneol.com. À très bientôt.